Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez tous que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est un combat de tous les jours et de tous les instants, et même la nuit. Parce que Satan ne se donne aucun repos. À nous de lutter le bon combat de la foi, afin d'être vainqueurs, afin qu'au jour de Jésus-Christ, il nous ouvre la porte de la salle des noces et que nous puissions entrer avec lui. Mais il faut combattre, il faut lutter. C'est une lutte ardue, c'est une lutte récurrente de tous les jours. De tous les jours. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué et je le remarque tous les jours. Quand je suis en prière, Satan est là, à côté de moi. Et il écoute ma prière. Et il essaye de me détourner de la prière par des pensées autres. Et je suis obligé de revenir, de chasser Satan et de revenir à la prière. Quand je lis la parole de Dieu, Satan est là, à côté de moi. Et il me dit, Albert, tu te rappelles un tel, tu te rappelles un tel? Pour m'éloigner de la lecture. Tout simplement, c'est un combat de tous les instants, frères et sœurs. À nous de combattre ce bon combat de la foi, de persévérer jusqu'à la fin, de persévérer dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'humilité, pour que nous soyons des vainqueurs. Amen. Je vous propose de faire une lecture avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Au chapitre 2. Épître de Paul aux Romains, chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui allait dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. La loi de Dieu avait instauré la circoncision comme signe extérieur, comme signe physique de l'appartenance au peuple de Dieu, donc à Dieu. C'était la circoncision. Et tous ceux qui n'étaient pas circoncis ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce. Il y a encore un signe extérieur, visible, qui marque que nous sommes du peuple de Dieu. Et vous le savez tous que c'est ce signe. C'est le baptême d'eau. Mais oui, parce que celui-là, on le voit. On voit la personne qui s'engage dans les eaux du baptême. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, Paul dit aux Romains, si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision, malgré que tu as été circoncis. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, écrite sur des tables de pierre, nous sommes sous la loi de Christ, étant mis à mort par notre baptême. Alors ceux qui veulent prendre des notes, prenez un crayon et un papier, parce qu'il y a pas mal de notes de référence que je vous donnerai. Nous avons été mis à mort par notre baptême, selon Romains chapitre 7, verset 4. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Christ, c'est la fin de la loi de Moïse. Romains 10, 4. Pour commencer, une vie nouvelle, une vie de l'esprit. Ah, c'est tout à fait différent, hein? Parce qu'avant, il suffisait d'obéir à ce qui était écrit pour être agréable à Dieu. Mais nous ne sommes plus sous cette loi parce qu'elle était impossible à vivre. Impossible. Et le sacrifice des animaux n'était pas suffisant pour pardonner les péchés des hommes. Le sacrifice des animaux n'était pas suffisant. La loi de Moïse était un pédagogue pour nous conduire à la loi de la foi. Galates 3, 24. Alors, je disais que le péché était tellement grand que le sacrifice d'animaux ne suffisait pas. C'est pourquoi Jésus est venu, et moi je dirais le Père en Jésus, est venu, il a dit, envoie-moi Père, par amour pour chacun d'entre nous. Envoie-moi Père, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Mais que dit la loi de Christ, frères et sœurs ? Galates 6, 2, aujourd'hui, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, mais il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. Ce n'est pas toujours facile, hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas toujours facile. Voilà quelque chose de difficile à faire. Parce que dans ce monde, le slogan, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais pour nous, chrétiens, il ne doit pas en être ainsi. Jésus disait dans Jean 15, 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jean 13, 34, ou encore Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aïe, aïe, aïe. Aimez vos ennemis. Je vous assure que ce n'est pas facile du tout. C'est même très difficile d'aimer ses ennemis. Ceux qui vous haïssent, ceux qui vous critiquent, ceux qui disent du mal de vous. Les aimer, il n'y a rien de plus difficile que ça. Pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est difficile. Et pourtant, si Dieu nous le demande, c'est que c'est possible. C'est possible non pas par nos propres forces, mais par la force du Saint-Esprit qui agit en nous. Jésus n'a-t-il pas dit sur la croix du calvaire, alors que ses bourreaux étaient en train de le tuer, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Moi, je suis émerveillé devant cette expression d'amour de Dieu, de Jésus. Dans la souffrance qu'il traversait, devant ses bourreaux qui lui crachaient dessus, qui lui donnaient des coups de bâton. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Que dit la loi de la foi, frères et sœurs ? Que dit la loi de la foi ? Le juste vivra par la foi. Galates 3, 11. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas facile pour nous, matérialistes que nous sommes, de vivre Hébreux 11. Vous connaissez Hébreux 11, hein ? La foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut aller au ciel ou est-ce qu'on veut rester sur la terre ? Si on veut aller au ciel, et nous allons le voir, Il faut aimer les choses du ciel, aimer la parole de Dieu, nous consacrer aux choses du ciel, nous consacrer à ces commandements que Dieu nous a donnés. Le juste vivra par la foi. Cette vie de la foi implique vraiment un changement radical de notre vie. Un changement radical. Changement d'optique. Je ne vis plus pour la terre, je vis pour le ciel. Amen. Je ne vis plus pour la terre, je vis pour le ciel. Oui, mais c'est facile à dire, hein. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Se désintéresser de tout ce qui est terrestre, tout en vivant sur la terre, tout en usant de la terre, tout en usant de ce que Dieu nous donne sur la terre. Dieu nous demande de ne pas y être attachés. De nous désintéresser de toutes ces choses, ces richesses, ces possibilités, ces connaissances, ce savoir que nous avons. Toutes ces richesses que Dieu nous a données, des richesses qui viennent de lui. Moi j'appelle ça les richesses injustes. Pourquoi injustes? Parce que c'est Dieu qui nous les a données, et il ne les a pas données pour nous-mêmes, mais il nous les a données pour les autres. Pour que nous soyons un canal pour les autres. Cette vie implique vraiment un changement radical de notre vie. Changement d'optique. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. N'est-il pas écrit, frères et sœurs, faites-vous un trésor dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent rien vous voler. Marc 19, 21. Faites-vous un trésor dans le ciel. Mais comment se faire un trésor dans le ciel? Eh bien, en faisant du bien autour de nous, en rendant des services, en priant pour les uns, pour les autres, en faisant des visites. Et Jésus a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le ferez. Et tout ce que vous ne faites pas, c'est à moi que vous ne le faites pas. Voilà comment se faire un trésor dans le ciel. Là où le voleur ne peut toucher. Là où la rouille ne peut pas toucher. Cela veut dire, frères et sœurs, que les choses de la terre ont moins d'importance que les choses du ciel. Les choses de la terre doivent avoir moins d'importance que les choses du ciel. Eh oui. Je pense non plus comme le monde, mais je pense comme Jésus. Ah oui. Alors comment penser Jésus? Eh bien, lisons-le dans la parole de Dieu. Et nous verrons comment Jésus pensait. Et à nous de penser comme lui. Alors, je suis obligé de dire, Seigneur, donne-moi un cœur selon toi, Seigneur, afin que je pense comme toi, Seigneur, que j'agisse comme toi tu agissais, Seigneur, que je fasse comme toi tu faisais, pour que je sois digne d'être appelé enfant de Dieu. Je change d'optique, je change d'orientation. Et oui, je change d'orientation. La conversion, c'est ça, frères et sœurs. C'est un demi-tour complet. Un demi-tour complet. Je ne pense plus comme le monde, je ne parle plus comme le monde, je ne calcule plus comme le monde. Mais je calcule pour que la porte du ciel me soit ouverte. Je calcule pour que Dieu me reçoive dans le tabernacle de Dieu. Et oui, frères et sœurs, investissons dans le royaume de Dieu. Et tout ce que nous faisons ici-bas pour la gloire de Dieu, nous le retrouverons dans le ciel. Et ce bien que nous faisons ici-bas témoignera en notre faveur lorsque nous serons là-haut. Alors, frères et sœurs, Paul est en train de nous dire, en parlant aux Romains, si tu ne vis pas la loi de la foi, ton baptême ou ta circoncision devient nul. Si tu ne vis pas selon la loi de la foi, ton baptême, il est nul. Il est nul. Pourquoi ? Ben parce que je ne me conforme pas à la volonté de Dieu. C'est comme, disait dimanche le frère Bouchamy, c'est comme si je prenais un bain. Ben oui, mais le baptême, ce n'est pas ça. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et si mon baptême devient nul, alors le jugement de Dieu sera sévère, selon Romains chapitre 2, verset 27. Paul dit aux Romains au verset 25 de notre lecture de base, le juif, ou je dirais le chrétien, ce n'est pas celui qui allait dehors, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Ce n'est pas celui qui dit « je suis chrétien, je suis baptisé, je lis la Bible, je vais à l'église ». Vous savez, au club de boules où je vais, il y a un ami qui a sur son bras ici, il a tatoué en grand la tête du Christ. Et je lui ai dit un jour, « François, ce Christ que tu as sur le bras, c'est pas là qu'il faut qu'il soit, c'est dans ton cœur. » Il me dit, « C'est vrai, Albert. » Mais ça reste l'être morte. Et son propre frère, il a une grande chaîne autour du cou, avec une croix comme ça, avec le Christ dessus. Mais si vous l'entendez parler, vous dites, mais pourquoi faire? Il porte une croix. Il se dit chrétien, cet homme-là, avec le langage qu'il a. Et oui, frères et sœurs, le chrétien, c'est pas celui qui l'est extérieurement. C'est pas celui qui se dit chrétien. C'est celui qui vit la vie du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui vit la loi de la foi, dans l'exemple que nous a donné notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le chrétien, c'est celui qui a l'assurance d'avoir accompli les œuvres de Dieu et que cette assurance au retour de Jésus nous permette d'entrer dans la salle des noces. Alors là, vous lirez dans la première épître de Jean au chapitre 2 et verset 28 et vous verrez de quelle assurance il s'agit. Et pour moi, je suis persuadé que dans la parabole des 10 vierges, l'huile en réserve que les sages avaient et que les folles n'avaient pas, c'est l'assurance. Parce que les sages avaient fait la volonté de Dieu et que les folles ne l'avaient pas faite, la volonté de Dieu. Alors les folles qui n'avaient pas fait la volonté de Dieu, elles n'avaient pas d'assurance lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, lorsqu'il a ouvert la porte. Elles sont parties travailler. C'était trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut travailler, pendant qu'il en est temps, pendant que la porte de la grâce est encore ouverte. C'est maintenant qu'il faut travailler. Et alors, au retour du Jésus-Christ, nous aurons l'assurance de 1 Jean 2,28 pour que nous puissions entrer dans la salle des noces. Il est écrit dans 1 Jean 2,28, je le lis pour vous, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, au retour de Jésus, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Moi, ce verset m'a persuadé que c'est aujourd'hui qu'il faut travailler. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Non pas demain, non pas après-demain, non pas quand je serai à la retraite, mais maintenant, pendant qu'il en est temps. Frères et sœurs, un jour nous sommes passés de la mort à la vie par notre baptême. Et cette vie de l'esprit dans laquelle nous sommes engagés doit se voir dans notre vie quotidienne. Cette vie de l'esprit doit se voir dans notre vie quotidienne. Ne perdons pas de vue que nous serons jugés un jour au tribunal de Christ. Frères et sœurs, 2 Corinthiens 5:10. Nous ne sommes pas sauvés selon notre apparence. Nous ne sommes pas sauvés selon notre appartenance à un mouvement religieux. Non, pas du tout. Ni à une fédération. Nous ne sommes pas sauvés selon nos actes, aussi bonnes soient-elles. Non, parce que les païens sont capables de faire des actes louable. Mais oui, mais oui. Nous ne serons pas jugés selon nos actes, aussi bonnes soient-elles. Paul a dit, même si je donne mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Vous voyez ? Jusqu'où il va, Paul ? Nous ne serons pas jugés non plus sur notre engagement dans les eaux du baptême. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés que nous serons sauvés. C'est indispensable. C'est indispensable. Car il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Combien de personnes, frères et sœurs, ont été baptisées dans cette église et ne sont plus là aujourd'hui? Combien? Moi, je pourrais vous en citer de mémoire, là, vite, vite, une douzaine. Mais il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Nous serons jugés, frères et sœurs, selon notre foi en Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. Nous serons jugés selon notre foi en Christ, qui dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Si Jésus est devenu notre modèle, frères et sœurs, s'il est devenu notre but, le but de notre vie, alors nous allons tout faire pour changer d'optique, pour changer de direction, pour changer de langage, pour changer de sentiment, pour changer d'intérêt. Et oui, frères et sœurs, si Jésus est devenu notre modèle, le but de notre vie, alors nous allons tout faire pour lui plaire. Amen. Nous allons tout faire pour lui plaire et pour faire sa volonté. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un combat de tous les jours et de tous les instants. Satan s'acharne sur les chrétiens et sur l'Église, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, pour détruire, diviser, car il sait que son temps est arrivé. Il ne se donne aucun repos, et je disais même la nuit, par des rêves négatifs, mauvais. Il met dans notre tête toutes sortes de pensées négatives, et si nous les laissons pénétrer dans notre cœur, elles vont créer de l'amertume, de l'animosité, un esprit de vengeance et de colère peut-être. Eh oui, frères et sœurs, nous devons, et je termine par là, résister au diable qui fuira loin de nous. Chassons-le chaque fois qu'il vient par une pensée négative. Chassons-le afin que nous soyons libres dans la prière, libres dans la lecture, libres dans l'écoute de sa parole. C'est Jacques, chapitre 4, verset 7, qui nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » N'oubliez jamais, frères et sœurs, jamais, jamais, que Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pour nous soutenir dans notre combat. Il l'a promis. Et tout ce que Dieu promet, il le fait, si nous y croyons. S'il est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Personne. À condition, bien sûr, que nous ayons dans notre cœur la volonté de faire sa volonté, de faire tout ce qu'il nous demande, de faire comme lui aurait fait, comme lui a fait. Satan a été vaincu sur la croix et nul ne nous ravira de la main de Jésus-Christ, de la main de Dieu. Personne, personne, le séjour des morts ne prévaudra pas contre vous, contre moi, contre l'Église, parce que Jésus-Christ a payé de sa vie et il a vaincu Satan. Voilà, mes frères et sœurs. Persévérons dans la foi, persévérons afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans cette ville d'Aubagne, que l'Église soit triomphante dans cette ville d'Aubagne, afin qu'on sache dans Aubagne et ailleurs qu'il y a un lieu où le nom de Jésus-Christ est glorifié, où le nom de Jésus-Christ est proclamé et que les enfants de Dieu sont des vaillants soldats de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur notre Dieu, merci Jésus pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Père. Merci Seigneur pour ta parole qui est vraiment une nourriture, Seigneur. Elle est une lampe sur notre chemin. Seigneur éternel, s'il te plaît, bénis mes frères et mes sœurs qui sont là et ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Bénis-les, Père éternel, et que ton Église, Seigneur, soit vaillante, Seigneur, jusqu'au jour de ton retour, Seigneur. Qu'elle soit triomphante, Père, dans le combat. Seigneur éternel, que Satan n'ait pas la victoire, car la victoire t'appartient, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, reçois la gloire qui te revient, Seigneur Jésus. Au nom, Père éternel, oui, Seigneur, bénis, Seigneur, ton peuple, bénis, Seigneur, tes enfants, bénis tes serviteurs, Seigneur. Éternel, que ton grand nom soit glorifié, maintenant et pour l'éternité, Seigneur. Amen.